Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée. Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous quand il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Le Togo abrite à partir de ce mardi 25 février un forum régional sur l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes. L'activité organisée par le groupe de la Banque mondiale en collaboration avec la Fondation Brazzaville réunit dans la capitale togolaise les organisations de la société civile de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pendant 2 jours, les travaux officiellement lancés par le Premier ministre Victor Adobe offriront une plateforme stratégique aux acteurs afin d'accentuer leur engagement et accélérer les actions pour l'égalité des genres et la réduction de l'extrême pauvreté. En outre, il s'agit d'explorer les possibilités d'une meilleure collaboration avec l'institution de Bretton Woods, également en première ligne sur la question à travers ses interventions dans les pays. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 27 février 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Merci de nous choisir. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous le savez très bien, vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères, journalistes bien sûr en studio avec moi, Michel Yao Tsadza. Bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour nos amis techniciens derrière la belle vitrée. Bonjour aux confrères déjà présents. Puis bonjour Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu.
Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Ouara les Vainqueurs et Elom Atisoubé, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, Dieu fait grâce, ça va, en vie, en grâce à Dieu pour ses bienfaits.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune qui justement est dans les kiosques ce matin. Nous parlerons bien sûr alors des différents articles publiés dans ce journal ce matin. Ambroise Pondré, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour les confrères, bonjour les auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis Lomé, l'intérieur du pays jusqu'à la diaspora. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention de nos amis, les forces de l'ordre, gendarmes, policiers que militaires, parce que j'ai eu un appel hier, c'est un révérend pasteur, et pas des moindres, qui m'a soulevé ce cas de salutation à nos forces de l'ordre. Il m'a dit que c'est la deuxième fois que cela arrive, mais qu'il n'a pas compris. Quand vous saluez nos... C'est vrai que c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a ces rares là qui au moins sont courtois. Quand vous saluez nos amis, dites bonjour monsieur, ou bien bonjour chef, dites bonjour. C'est le simple bonjour qui vous répond. Et peut-être des fois ils ne vous regardent même pas avant de répondre. J'ai dit, il n'a pas menti. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire du suffilage, ni du rafistolage. Parce que moi-même, je l'ai remarqué depuis, Et il m'a ajouté que nous sommes en période de questions de terrorisme. Et si on demande la collaboration des populations, mais si un civil vous dit bonjour, dites-lui bonjour monsieur. Si c'est une dame, bonjour madame. Même si vous ne voulez pas rire, ce n'est pas forcé de rire. Juste bonjour monsieur, bonjour madame. Mais le fait de dire bonjour monsieur, bonjour, et on vous regarde même pas, on a comme l'impression qu'il y a une grâce qui entre toujours, qui entre les corps habillés et les civils. Mais on ne peut pas demander aux civils de collaborer avec les forces de l'ordre. J'ai suivi une émission, bizarrement il m'a appelé hier, une émission ce matin sur RFI avec nos amis du Bénin sur le terrorisme. Et tout ce qu'on a écouté, même c'est hier plutôt.
C'était hier, ouais,
voilà.
Puis c'est aujourd'hui, c'est
tout, tout ce qui a été dit résume avec ce que le pasteur a dit, que s'il faut changer de paradigme, qu'il croit fondamentalement que le citoyen n'a aucun problème avec le militaire ni avec les autres corps habillés, mais plutôt il faut que nos amis qui sont de l'autre côté puissent changer pour qu'il y ait un brassage entre nous, pour que les renseignements, parce que le premier renseignement pour le militaire et autres, c'est la population. Que ce soit dans les zones où il y a difficulté, c'est les populations. Et donc, la courtoisie, le minimum, c'est la courtoisie avec les citoyens. Et le citoyen même va se transporter vers vous pour dire « Ah, j'ai vu telle chose, c'est pas si sûr. » Et là, le militaire ou le policier, le gendarme, va se transporter sur le lui. Mais quand vous êtes méfiant avec la personne, il ne viendra jamais à vous. Donc, c'est ce que... Parce que, moi, à mon entendement, hein, je me dis que peut-être c'est dans leur habitude, on vous dit, si vous faites ça, ils seront trop amis avec vous. Et là, non. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais.
D'accord.
Et que cette glace-là soit brisée.
D'accord. Merci beaucoup, Ambrage, d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai, dans mes mots introductifs, j'annonçais le sujet tout de suite. C'est concernant le forum régional sur l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes. Et ce forum se déroule dans la capitale togolaise, dans notre pays, bien sûr. Depuis le mardi, il y a le journal Tom Nansé et Le Tonnerre qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit... Promotion de la jeune fille et l'autonomisation de la femme, la Banque mondiale satisfaite des initiatives du Togo. Alors, Michel, oui, quand on se penche un tout petit peu vers ce sujet, on voit tout simplement, il y a même d'ailleurs le Premier ministre, Victoire Dobé, qui a inauguré même d'ailleurs le forum, c'était le mardi. On comprend tout simplement que pour ce qui concerne la promotion de la jeune fille et aussi de l'autonomisation de la femme, le Togo est sur la bonne voie.
Oui, ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que le gouvernement, depuis quelques années, s'est inscrit résolument dans ce sens-là et fait tout pour encourager la jeune fille. Pour qu'elle comprenne qu'elle a et sa place dans la construction de notre pays. Et le gouvernement ne le fait pas comme ça en l'air. Il y a des preuves. Quand vous prenez notre gouvernement, les femmes sont, même s'il n'y a pas la parité, les femmes sont réellement représentées. Vous prenez l'Assemblée nationale, vous prenez... depuis quelques années, les forces de sécurité, les forces de l'ordre, il y a la gente féminine qui en fait partie. Et nos jeunes filles qui sont au collège, au lycée, à l'université, c'est un message qu'on les envoie. Que si vous persévérez, si vous travaillez avec du sérieux, c'est que vous avez votre place. L'État fait en sorte que la femme, chaque fois qu'il y a l'homme, il faut qu'il y ait une femme à côté. Et donc, aujourd'hui, la promotion de la jeune fille, ce n'est pas une incantation, c'est une réalité dans notre pays. Et que les filles aujourd'hui savent que si elles s'organisent bien, elles ont leur place. D'ailleurs, il y a des associations très importantes. Réforme Togo et GFDD, si je prononce bien le nom de ces associations-là, qui sont des associations de femmes, des femmes ministres, des femmes parlementaires et tout ça. C'est une manière de dire que les femmes ont leur place et il suffit seulement qu'elles soient organisées elles vont toujours trouver une oreille attentive de la part de en tout cas du haut sommet de l'État.
Et là, c'est vrai, le journal Le Dialogue revient aussi sur le sujet. Le journal écrit « Promotion de la jeune fille et autonomisation de la femme. La Banque mondiale apprécie les avancées du Togo. » Oui, on sait que depuis un temps, le Togo a commencé par faire, par mettre même d'ailleurs la priorité sur cette promotion de la jeune fille et aussi l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on pourra dire l'homme que non, ça a commencé par payer.
Bon, félicitations pour voilà, tout ce que nous faisons en matière de, d'inclusion sociale, promotion de la jeune fille. Je crois qu'il faut accentuer voilà, cette ouverture pour les femmes aussi de pouvoir accéder aux emplois et, ou accéder à un emploi. C'est très important parce qu'on ne doit pas, comme on le dit souvent, réduire la femme à un rôle de mère au foyer. Il faut toujours les encourager à se définir sur le plan professionnel, à s'intégrer pour que les gens puissent véritablement s'épanouir et puis se sentir concernés par le développement de la nation. Donc, c'est vrai, on a fait des pas de géant ces dernières années. Je crois qu'il faut continuer en ce sens et voir dans quelle mesure accentuer aussi la scolarisation de la jeune fille, surtout en milieu scolaire, et réorienter aussi la jeune fille vers les filières scientifiques. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre beaucoup plus les femmes dans les filières littéraires et les filières scientifiques sont délaissées. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir encourager les jeunes filles à embrasser la formation professionnelle. Et vous voyez, il y a des filières techniques que les gens fuient souvent, que les jeunes filles, vous allez par exemple dans des filières de génie civil, etc., vous allez beaucoup d'hommes, 99% sont des hommes, et il faut toujours encourager les jeunes filles à pouvoir embrasser des filières scientifiques, techniques, la formation professionnelle. Voilà, il y a beaucoup de débouchés dans ces différents domaines également, et donc je crois que il revient aux autorités de pouvoir poursuivre en ce sens et réorienter la machine pour voir dans quelle mesure on peut faire mieux dans d'autres filières à l'avenir.
D'accord. Oui, mais Ambrose, si tant est que le Togo a été désigné pour abriter ce forum régional sur la promotion de la jeune fille et aussi l'autonomisation de la femme, ça veut dire que en matière de cette lutte ou cette promotion, le Togo a aussi une place importante. Et surtout que quand on prend la Banque mondiale qui se satisfait déjà des avancées alors du Togo.
Bon, moi, je me dis que c'est des bonnes guerres, hein, parce que s'il n'y a pas d'autres matières à toucher pour réveiller les démons, il faut d'autres matières qui, au moins, essaient de relever les défis qu'on a substantiellement et qu'on a de façon pratique sur le terrain. Et ces défis-là, je crois, il y a la question de la femme, effectivement. Cette question-là a été, depuis quelques années, et l'objet de préoccupations et de prise en charge. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne sente pas trop sur le terrain. Et on se dit que même le ministère de la Femme, de l'Action sociale, n'est pas fortement doté de moyens pour pouvoir faire son travail. Je l'ai dit ici. Je ne sais même pas qui est. Je sais qu'il y a une dame qui est là. Son nom aussi m'échappe. Mais je sais quand même qu'il y a un problème de moyens que ce ministère devait avoir. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi plusieurs instruments juridiques qui sont allés dans le sens de la protection de la femme. Je parle de cadre juridique, je parle du code des personnes et de la famille qui a été révisé deux fois, je crois, de suite. Et au-delà de ça, la question de l'autonomie de la femme doit effectivement être une priorité. Je venais tout à l'heure, j'ai vu les dames. Ça, c'est un vieux constaté. Au niveau du marché qui est à 100 mètres de vous ici, 150 mètres, marché de Hankopé, en dehors du marché à fruits, il y a le marché même là-bas. Comme il y en a aussi des femmes qu'on a transportées d'Abadahonou et pour pouvoir venir commercer ici, on les avait demandé d'aller au niveau de l'université là-bas. Certains sont restés ici, le Golf 4 les a trouvés une place ici. J'ai vu des femmes tout à l'heure assises sous le soleil, au bord de la route là-bas, au niveau du pont, et avec des habits sous la tête. Avec ce soleil-là, je me dis, ça m'a touché. J'ai dit, mais au moins certaines parmi elles cherchent des parasols pour se protéger et vendre. Maintenant, je l'ai vu au moins une dizaine de femmes, hein,
qui sont alignés, quand tu quittes le pont pour arriver au marché, sur le soleil là-bas, avec leur habit sur la tête ou des trucs là sur la tête, pour vendre des oignons et autres. Je me dis que ces dames-là doivent vendre jusqu'au soir pour aller nourrir les enfants à la maison. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a interpellé, pour dire que au-delà du cadre institutionnel et de tout ce qui est déjà fait, il faut encore faire plus d'efforts pour qu'on sente réellement que la question de la femme et de la jeune fille est prise en compte. Maintenant, touchant la jeune fille, j'ai aussi constaté qu'il y a un cadre juridique qui protège la fille sur plusieurs plans. D'abord au niveau de la santé même de la fille, au niveau de la protection de la fille par rapport à certains voyous qui, eux, ne trouvent rien à faire que d'agresser sexuellement les enfants. Et il y a aussi cette protection au niveau au niveau de leur établissement scolaire aussi, et au-delà de l'établissement scolaire, qui les protège de tous ces fléaux-là. Maintenant, au-delà, il faut un enseignement adapté à la jeune fille. C'est vrai que la jeune fille, dans son ensemble aujourd'hui, a gagné en termes d'instruction, en termes d'enseignement, en termes il y a plus beaucoup de filles maintenant qui sont à la maison, en dehors de certains villages où on en trouve encore, beaucoup vont à l'école, ne serait-ce que l'école primaire jusqu'au collège. Déjà en montant l'escalier, on sent qu'il y a au niveau du secondaire certaines faiblités, parce qu'il y a des matières qui sont de glace là, et il y a aussi les grossesses précoces. J'ai suivi une association hier sur une radio qui aussi luttait contre ça, qui dit sillonner les établissements. Maintenant, au-delà de ça, il faut des modules conséquents qui puissent amener la jeune fille au sorti du lycée même à entreprendre au-delà de l'université. Parce que beaucoup sont à l'université, mais finalement se retrouvent à la maison. Beaucoup. Quand vous faites l'enquête, vous allez voir qu'il y en a qui sont inscrits au droit, ils ont fait la première année, ils ont dit, bon, moi, je suis à la maison désormais. À cause de l'aide qu'on fait souvent aux étudiants, certains vont s'inscrire.
Les allocations.
Ils vont souvent. Il y en a qui sont inscrits à l'anglais. Quand ça ne marche pas au niveau du droit, ils vont à l'anglais. Et après une année, deux ans, ils retournent aussi à la maison. Et c'est des petits trucs qu'ils font à la maison. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. C'est vrai qu'il y a des IFAD aussi. Je vais finir. Il y a des IFAD qui engorgent aussi ceux-là qui n'ont pas été très loin au niveau de l'école. Il y en a qui ont eu le bac. Il y en a aussi qui ont eu le BPC, mais qui se forment. Si ces choses-là aussi peuvent se multiplier et intégrer les jeunes filles, les jeunes femmes là-dedans, la digitalisation aussi. Il faut en faire. Moi, j'en ai parlé aux deux ministres lors d'une conférence de presse au niveau du ministère de la Communication sur la digitalisation. Il y a l'IA maintenant, l'intelligence artificielle. Il y en a des filles qui sont vraiment intelligentes aujourd'hui. Elles sont souvent premières. Hein. Elles sont souvent premières dans leur classe, au-delà des garçons, ou bien au-dessus des garçons. Et il faut les promouvoir. Il faut les encourager avec leur intelligence là. Les enfants qui prennent le portable, moi je n'en sais rien, c'est elles qui répare les choses sur les portables. Un enfant de CM2, un enfant de 5e. Donc vous voyez ça? Donc il faut d'autres matières pour pouvoir engorger ces enfants-là, pour les intéresser et éviter que les enfants soient dans l'oisif, dans l'oisiveté et devenir autre chose.
Ok, merci beaucoup Ambroise. Nous sommes rejoints par Magula Kenviteko. Magula, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrère et bonjour Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Ça va pas, la grâce de Dieu.
D'accord. Alors Magula, nous sommes en train de parler de ce forum, de la promotion ou sur la promotion de la jeune fille et aussi de l'autonomisation de la femme qui se déroule actuellement à Lomé. Et c'est un forum régional, bien sûr. Alors, et là, ça questionne bien sûr les démarches et aussi le combat pour la promotion de la jeune fille et l'autonomisation de la femme au Togo. Oui, déjà, il y a des confrères qui l'ont écrit, que la Banque mondiale est satisfaite alors de ce combat, de cette lutte. Mais au-delà de tout, est-ce que vous avez l'impression quand même que ça prend cette lutte ou ce combat pour la promotion de la jeune fille et l'autonomisation de la femme?
Non, mais je crois que ce débat concernant la promotion de la femme, je crois que il est logé à la même enseigne que beaucoup d'autres débats, c'est-à-dire que théoriquement, on a des réalités, et c'est-à-dire de façon pratique, il y a aussi d'autres réalités. C'est vrai que sur le plan législatif, Je dirais que le Togo s'est doté depuis plusieurs années d'un arsenal juridique assez huilé en matière de promotion de la femme, et de la jeune fille, bien entendu. Et il n'y a pas longtemps, je crois que le ministère en charge des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République a encore renforcé cela. Et il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, je crois que le ministère de l'éducation ou de l'enseignement primaire et secondaire est également allé dans ce sens en protégeant beaucoup plus nos sœurs élèves, en corsant la législation à la matière, c'est-à-dire que de renouvant, on sait que oui, la loi était là entre-temps, mais n'était pas trop appliquée. Un enseignant peut-être qui se permet de toucher à la jeune élève doit savoir à quoi il doit s'attendre que vis-à-vis de l'État. Je crois que tout ça c'est bien. Maintenant, la réalité sur le terrain aussi, c'est que ben lorsqu'on parle de la promotion de la jeune fille, de la femme en général, c'est aussi avoir accès à l'héritage. Mais cet aspect-là, je vous dis, mais il suffit pas de rester à Lomé pour se contenter de cet arsenal juridique qui réglemente les choses. Aller un peu au fin fond du Togo, dans les ménages, enfin, dans les coins les plus reculés du pays, pour voir comment est-ce que les femmes souffrent encore à avoir accès à l'héritage. C'est-à-dire que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de régions d'ailleurs de notre pays, on ne considère pas la femme en tant que partie prenante de la famille et de telle sorte que elle doit hériter, n'est-ce pas, au même titre que les hommes. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'arsenal juridique est là, on a tout réglementé, le code de la famille, tout ça est là, mais la réalité du terrain persiste. Il y a beaucoup de femmes dans notre pays qui sont privées de ces biens-là, sous prétexte tout simplement qu'elles sont des femmes. Et je crois que lorsqu'on veut instaurer des lois comme ça, une chose est de les instaurer, l'autre chose est de veiller à ce que ces lois-là soient appliquées dans toutes leurs dimensions. Et pour moi, si je peux me réjouir naturellement en tant que Togolais que des efforts sont faits au plan juridique, l'autre chose est d'inciter les gouvernants, n'est-ce pas, à faire un suivi régulier, n'est-ce pas, de toutes ces lois qui sont en vigueur. Parce que, moi je l'ai dit, il suffit tout simplement au ministère en charge des droits de l'homme de faire des descentes inopinées, peut-être dans des régions et tout ça, pour faire des enquêtes. Vous vous rendez compte facilement que il y en a encore de ces milieux-là où on prive vraiment la femme de l'héritage. Et pour moi, ça prouve que la politique-là a encore du chemin à faire
d'accord,
dans notre pays.
D'accord, ça prouve que cette politique a encore du chemin à faire dans notre pays. Nous allons quitter le sujet, on s'intéresse à un autre sujet. Et là, vous êtes revenu sur la crise à Suno Bank, Togo, et là, vous écrivez « Crise à Suno Bank, Togo, le Saint-Bank durcit le ton ». Alors, c'est vrai, nous suivons de près, hein, déjà, cette crise au sein de Suno Bank, et également avec les mouvements ces derniers temps. Nous avons reçu même d'ailleurs des secrétaires généraux de Saint-Banque tout récemment dans cette émission. Alors concrètement, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour que vous écriviez qu'il y a un durcissement à l'ordre de temps?
Ben, c'est pas nous qui revenons sur le sujet, c'est l'actualité. Parce qu'il y a une conférence de presse le week-end écoulé sur l'affaire, vous le savez. Bon, si vous avez reçu les secrétaires généraux des syndicats, ça voudra dire que moi, je peux pas donner plus d'informations que les acteurs eux-mêmes. Ça voudra dire qu'on a tous écouté tout ce qu'ils ont dit. Mais on a encore ouvert cette page parce que justement, lors de la conférence de presse de ce week-end, le syndicat des agents de banque a durci le ton en disant que oui, bon, ce qui se passe à Suno est quand même asymptomatique et que bon, si les gens veulent, ils vont quand même aller jusqu'au bout, faire une grève. Et ils disent qu'ils ont poursuivi les discussions avec les acteurs. Et à ce stade-là, il n'y a plus de discussion. Ils attendent juste que les autorités s'impliquent dans l'affaire pour trouver une solution à leurs problèmes. Et ils ont même dit, alerté en disant que oui, si on y prend garde avec ce qui se passe à Suno, d'autres banques vont pouvoir faire la même chose. Ce qu'ils sont en train de craindre, parce que c'est le syndicat des banques, ils ont quand même des informations par rapport à d'autres banques. Et par rapport au contexte actuel, c'est compliqué de pouvoir licencier ces agents. Et dans un premier temps, on a appris que la liste des plus de 100 personnes concernées par le licenciement a été revu à la baisse à 70. Donc la lutte continue aujourd'hui au niveau de 16 syndicats pour que la liste soit nulle, quoi, qu'il n'y ait pas de licenciement. Donc, je crois que les discussions se poursuivent. Il y a même, si mes informations sont bonnes, une mission de la commission bancaire de l'UMOA qui doit être dans nos murs pour pouvoir s'impliquer dans la crise de Sonu Bank afin que le calme puisse revenir. Parce que vous savez, quand une banque est en difficulté comme ça dans un pays, c'est compliqué pour la commission bancaire et ils sont en train de s'activer pour trouver des solutions afin qu'il n'y ait pas un licenciement de personnel, même si la banque est en pleine restructuration, mais qu'il y ait plutôt des solutions idoines qui soient trouvées pour qu'il y ait la calmie et que les économies des uns et des autres soient en sécurité.
D'accord. Oui, Michel, c'est vrai qu'on parle alors du licenciement sur motif, alors de motif économique. C'est ce que les secrétaires généraux nous expliquaient ici sur ce plateau. Et d'après eux, ils n'arrivent même pas à comprendre aussi la situation.
Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'homme pour lui expliquer. On dirait qu'il dort à une banque pour mieux expliquer le problème. Sinon,
vous savez, des épisodes alors de ces,
ouais,
de ce feuilleton.
Moi, je, dans tous les cas, quand il y a des difficultés, c'est de faire en sorte que
la paix, la calmie,
des solutions. Si on a revu à la baisse le nombre de ceux qui devaient normalement être licenciés, ça veut dire qu'on peut faire l'effort de garder tout le monde. Parce que dans un pays comme le nôtre où la recherche du boulot n'est pas aussi aisée et que des gens qui sont déjà à ces postes-là avec des familles, et quand ils seront mis de côté, vous imaginez un peu. Les gens travaillent, mais ça ne va pas. Mais quand on ne travaille même pas, mais imaginez la suite. Donc, moi, mon souci, que qu'on arrive à trouver des solutions, à ce problème. Mais moi, quand la dernière fois, j'ai suivi un peu, pas totalité, un peu les responsables de Sunu, en tout cas, oui, les responsables de ces syndicats, hein, oui, de Sunu, oui, qui oui, étaient oui. ici. Mais c'est ce qui m'a surpris, c'est que, bon, malgré cette situation, j'ai compris que les responsables de Sunu Bank, ceux qui sont à la tête là, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mépris pour des gens. C'est des gens qui, apparemment, ne se comportent pas très bien. Parce qu'ils sont que c'est des étrangers qui sont ici chez nous, ils se comportent comme si ils veulent vassaliser les Togolais ou je sais pas quoi, mais moi ça m'a fait mal de ils vont même jusqu'à traiter, en tout cas parler, dire des choses qui ne sont pas bonnes par rapport à nos autorités, mais ce qui n'est pas normal. Mais je pense que même si demain on trouve une solution, mais à Sunu Bank, il faut quand même que ceux qui sont à la tête là, le directeur et tous ceux qui gèrent cette institution, il faut quand même qu'on leur remonte les bretelles. Parce que non, ils ne peuvent pas venir se comporter comme ça chez nous. Ça ne se passe pas comme ça. Même s'ils ont des couvertures, il faut à un moment donné qu'on lève ces couvertures-là pour les faire comprendre que non. Mais s'ils sont ici, c'est les affaires. Ils doivent faire les affaires en respectant les Togolais. En tout cas, la dernière fois quand j'ai écouté les responsables des syndicats de cette banque-là, je n'ai pas été du tout content parce que au-delà du problème, j'ai eu l'impression que ces gens-là, mais ils se comportent comme si il n'y a personne au Togo, quoi. Non, il y a des gens, le Togo est gouverné, on a des responsables ici, on ne peut pas les permettre, quel que soit en tout cas, ce qu'ils ont sous le pied, on ne peut pas les permettre d'accord. de se comporter de la sorte.
D'accord, ok. Oui, Ambrose, c'est vrai qu'on faisait le débat hier, où on est revenu sur le débat hier, et donc on se posait la question de savoir et comment se fait-il que jusqu'à présent, l'État ne s'implique pas alors dans cette crise pour mettre fin à ce qui se passe là.
Oui, je crois que... Le problème, je crois que le problème, l'homme l'a dit, hein, il y a des institutions qui encadrent le fonctionnement des institutions bancaires au Togo. Il a parlé de la commission bancaire qui se trouve au niveau de la... qui doit être en concomitance avec la BCAO, je crois. Et c'est les mêmes mécanismes qui règlent la situation au niveau des institutions de microfinance et au niveau des banques.
Maintenant, au Togo, je sais que plusieurs entités privées extérieures sont aujourd'hui propriétaires et actionnaires majoritaires dans ces institutions-là. Et donc, la seule qui nous reste aujourd'hui, c'est l'UTB. Donc, nous, on n'a pas grand-chose à cirer, sauf que 80% des Togolais travaillent dans ces institutions selon les tests, si les tests sont respectés. Et donc, qu'est-ce qui est réservé à ces 80%? Moi, c'est ce qui doit m'intéresser. Sinon, si une banque ferme, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à cirer dans l'histoire de banque, de tout ça là. Peut-être les microfinances, d'accord, parce qu'elles autres, elles aident nous tous, y compris en majorité nos mamans, les petites revendeuses, à faire certaines activités génératives de revenus. Maintenant, les banques. La banque, moi je l'ai toujours dit, ça peut choquer des gens, hein, parce qu'un de mes professeurs d'économie nous l'a dit en classe, ça, c'est vieux, que c'est du vol organisé. C'est vrai que c'est ça, mais elle aide aussi des gens à protéger leurs avoirs, surtout les avoirs, l'argent, les liquidités.
Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, si un petit problème se pose et que les responsables de ces banques-là ne le gèrent pas, ne le circoncisent pas pour éviter une contagion, ça va créer un problème dans le pays. C'est là où nous sommes en train d'arriver. Et n'importe qui ne peut pas se lever un bon matin pour créer une banque parce que j'ai de l'argent. Vous avez de l'argent, vous voulez créer une institution bancaire, vous devez vous fonder sur des spécialistes. Ceux qui sont spécialistes du domaine, des finances, même si ceux-là aussi sont à redouter des fois. Et les banques, je me dis qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos banques parce qu'il y a aussi cette question-là que les gens ne soulèvent pas. Je ne sais pas si l'homme qui est un peu spécialiste du domaine l'a déjà soulevé. La question de la confiance. Moi, ça fait longtemps, plus de 8 ans, moi, je n'ai plus de compte en banque.
Tu as confiance entre client et banque. Aussi, banque.
Oui. Je sais de quoi je parle. On a eu débattu ici.
Tout à fait.
Vous avez 5 millions à déposer à la banque. Vous atterrissez dans une banque. Après 10 minutes, 5 minutes, vous déposez cet argent, vous quittez le lieu immédiatement. Mais ces 5 millions que vous avez déposé là, un mois après, vous venez retirer ne serait-ce que 1 million. Et l'homme va vous dire le temps que vous avez fait avant de prendre ces 2 millions, 1 million. Ça, c'est le propre des banques, pas au niveau des institutions de microfinance. Moi, j'aime plus les institutions de microfinance. Même les taux, quand vous faites un prêt, les taux appliqués ne sont pas les mêmes. Ils ont même la commission bancaire a dû, à un moment donné, faire pression sur certaines institutions de microfinance pour qu'ils se transforment en banque. Ils ont dit non. Si nous, on existe, c'est qu'il doit y avoir d'autres institutions qui sont au-dessus de nous, qui feront forcément l'intermédiaire entre les banques et les microfinances, c'est les maisons.
Mésofinance.
Quand les maisons sont là, les maisons finances sont là.
Il y en a deux au Togo.
Voilà. Et ils font aussi du bon boulot.
Kofina et Sogemef.
Ils font du bon boulot. Moi, je ne les connais pas, mais j'ai appris qu'ils font du bon boulot. Parce que tu as déposé 700 000 pour prendre au moins 1 500 000 ou 2 millions à la FISEC, par exemple. Tu veux prendre les 2 millions là, parce que tu as déposé 700 000. Maintenant, tu déposes les 2 millions à une maison pour avoir peut-être 10 millions. Et ils acceptent. Mais les banques. Va dans une banque pour demander, peut-être, je peux me tromper, je ne suis pas très spécialiste, mais va dans une banque pour demander un prêt et toute la contingence qu'on va te faire pour que tu accèdes à ce prêt-là. Et donc, moi, je ne suis pas en train de vouloir banaliser le travail que font les banques chez nous au Togo. Les banques aident des gens à construire, à créer des institutions et à embaucher des gens. Ça, je suis d'accord. Et je connais des gens aussi qui font des prêts dans plusieurs banques. Ils prennent 10 millions ici. Et en attendant, ils prennent ici 5 millions ici. Le temps que l'échéance là arrive, ils paient, ils ne commencent pas à payer ici. Ils sont dans tout. J'ai dit, bon, si je veux faire ça, ça veut dire que nous, on n'a pas la culture de faire le prêt. C'est ça le problème. Parce qu'avec Wadjet, je me rappelle, quand on envoyait les gens en prison, tu te rappelles dans les années 2010. Et simple caution, que tu vas te retrouver en prison. J'ai vu deux cas comme ça. Heureusement que ça aussi, la commission bancaire, il y a une loi qui a réglé ce problème-là. Parce que aussitôt que les gens viennent chercher, les huissiers viennent là, tu as l'urine qui quitte tes pantalons, qui se retrouve à terre. Ça veut dire que tu as fait un prêt. Tu as fait un prêt, mais celui qui a fait le prêt, il a fait. C'est là la caution. Simple caution, tu as un problème. Donc au niveau des banques, il faut qu'il y ait un sérieux travail qui soit fait d'abord au niveau du ministère des Finances et au niveau, pas seulement du ministère des Finances, parce qu'elle n'est pas la seule à avoir un contrôle sur les banques. La BCAO et la commission bancaire. Et je sais aussi qu'il y a des contingences au niveau là-bas. Parce que les administrateurs ne sont forcément des Africains. Il y a aussi des Occidentaux qui sont là
particulièrement des Français. Et ça aussi, c'est un autre point du problème qu'on viendra en parler ici.
D'accord. Mais Marla, la question que j'ai posée à Ambroise, je voudrais poser également la même question. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle alors du secteur bancaire, c'est un domaine qui est sensible. Et parce qu'on sait quand même qu'il y a des fonds qui circulent. Et au-delà de tout, est-ce qu'avec cette crise, l'État ne peut pas taper du poing sur la table et dire « Mais écoutez, il faudrait quand même qu'on arrête ça ».
Non, je crois quand même qu'il y a eu quelques jours, quelques semaines, on avait déjà fait ce débat ici. Et j'avais donné mon avis là-dessus. C'est vrai que moi, je ne suis pas spécialiste du domaine bancaire. Je ne suis pas financier, mais en tant que Togolais, j'observe un peu de loin le feuilleton, tout le feuilleton avec ces différents épisodes. Et je ne maîtrise pas à fond ce qui se passe réellement. Je sais qu'il y a des soubresauts, des mouvements d'humeur et tout ça. Mais la réalité, c'est que quoi? Comme je l'avais dit entre-temps, même si la banque n'est plus togolaise parce que, bon, je sais pas, où l'État a cédé une grande partie à un opérateur étranger. Mais je me dis, du moment où il y a des Togolais qui travaillent là-bas et que la boîte se retrouve dans des pétris à un moment donné, mais il faut quand même la présence de l'État pour que ces Togolais-là puissent sentir la présence de l'État autour d'eux. Je crois que c'est comme ça, ça se fait un peu partout. Dans chaque pays, même fût-elle privée, quand une entreprise, une société est en difficulté, du moment où ça nourrit des gens, du moment où ça crée de la richesse, de l'emploi dans le pays, à un moment donné, il est aussi du ressort de l'État de participer à relever la boîte, quitte à voir après les conditions comment l'État allait rentrer dans les fonds englouti dans cette opération de relèvement. Mais je ne vois pas encore ça chez nous. Je sais que, bon, peut-être des choses vont se faire dans les coulisses et que ne sont pas forcément tenus informés, mais du moment où on a déjà menacé toute une dizaine de Togolais qui sont en passe de rentrer à ce match comme ça, même si par après les négociations, on a réduit le nombre et que certains ont eu la chance peut-être de continuer leur bail pour le moment en attendant ce que demain leur réserve. J'estime qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, il faut que l'État fasse remarquer sa présence. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut appeler tout ce beau monde. Qu'est-ce qui est réellement le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? En quoi on peut vous aider? Et peut-être que les gens peuvent exprimer aussi leurs besoins, ce qui les amène à arriver à ce niveau donné. Et ensemble, on peut voir ce qu'on peut faire. Parce que, comme je l'ai dit, même si la boîte n'est pas tellement togolaise ou n'est pas togolaise, du moment où il y a des Togolais, ben, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et c'est tout ce que moi je peux dire. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis pas trop ancré dans ce débat. Je ne peux pas faire des déclarations à charge ou à décharge contre une partie parce que je ne maîtrise pas.
D'accord.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des Togolais qui travaillent là-bas, il faut qu'on sauve leur pitance quotidienne.
Tout à fait.
Parce qu'on sait, la famille africaine, la famille togolaise, on sait comment elle est. Une seule personne qui travaille, on connaît combien de bouches cette personne nourrit.
D'accord.
Donc, il faut intervenir pour sauver justement ces dizaines, ces milliers de Togolais.
D'accord.
Dont l'avenir semble être un peu menacé.
Merci beaucoup. Nous allons nous intéresser à ces rapports de l'IGE. Et il y a le journal Le Tonnerre qui est revenu sur le rapport ou les rapports de l'IGE. Et le journal écrit « Rapport de l'IGE ». L'IGE, c'est l'inspection générale d'État et qui est sous le contrôle de la présidence de la République. Et le journal écrit « Rapport de l'IGE et allégations et après ». C'est la question que se pose justement alors le journal. Et d'après ce rapport, on comprend tout simplement qu'il y a eu des détournements dans des sociétés, des institutions même d'ailleurs de l'État. Et entre 2020 et 2023, il y a eu vraiment des détournements. Par exemple, nous prenons le cas alors de l'INAM. Le journal est revenu sur le cas de l'INAM. Le journal écrit « La santé publique compromise à l'INAM ». À l'Institut National d'Assurance Maladie, INAM, censé protéger la santé des Togolais,
l'organe de contrôle a découvert un dysfonctionnement systémique inquiétant. Plus de 96 millions de francs CFA de dépenses sans justificatif ont été identifiés, principalement pour des missions dont la nature reste floue. Un agent nommé M. Amouzou doit quant à lui rembourser 6 millions de francs CFA indûment perçus. Et plus grave, le journal écrit continue, hein, plus grave encore pour les assurés, la baisse arbitraire de 20% du prix de base de remboursement pour les médicaments courants a directement affecté leur protection sanitaire. Et Michel, c'est vrai, il n'y a pas que l'INAM, il y a SAFER, il y a d'autres institutions de la République qui ont été touchées même d'ailleurs par ces allégations et même d'ailleurs détournements ou malversations financières. Alors, finalement, entre-temps, on parlait de la Cour des comptes qui a fait sortir un rapport et bien sûr, aujourd'hui, c'est l'inspection générale d'État qui fait sortir un rapport. Et il doit y avoir d'inquiétudes quand on sent que déjà, ces rapports font état alors des détournements.
Tu sais, ce rapport-là, moi, je ne l'ai pas. Pour l'analyser, je ne peux pas me jeter comme ça sur un dossier que je ne maîtrise pas. Parce qu'il faut que moi-même, j'ai ce rapport-là pour pouvoir analyser moi-même. Je ne peux pas, sur des bases de bases que je ne maîtrise pas, me prononcer sur... Surtout que ça vient d'une institution comme l'IGE. C'est une institution très importante. Et ces rapports doivent être pris avec beaucoup d'austérité. Donc, je ne peux pas me prononcer tant que je ne l'ai pas moi-même pour essayer de voir de quoi il est question. Voilà.
D'accord. Alors?
Bon, vous savez, on continue. Au niveau de notre rédaction, oui, on a quand même eu vent de ce rapport de l'IGE. On continue de voir parce que, justement, il y a un débat qui a eu entre-temps avec l'ITIE. Vous savez, vous rappelez de ce débat par rapport aux industries extractives qui ne verseraient pas de dividendes suffisantes au budget de l'État. Donc, on continue de pouvoir justement analyser ces différents rapports parce qu'il y a des choses sérieuses qui ont été dites. C'est très important, il faut le dire, mais on ne peut pas se prononcer comme cela sans pouvoir analyser tous les contours de ces rapports. C'est très important parce que sinon on risque de faire une analyse superficielle de la situation et en attendant aussi d'avoir la réaction justement de ces sociétés, parce que c'est important que les sociétés aussi puissent en parler, puissent dire oui, voilà, sur ce point, oui, sur ce point exactement, etc. Donc, on attend de voir tout le travail qui a été fait. Félicitations aux auteurs de ce rapport-là. Et donc, maintenant, il revient à nous, en tant que journalistes, de pouvoir fouiller de façon objective et professionnelle pour informer de façon objective aussi.
D'accord. Alors, nous parlons d'un rapport, d'un rapport, bien sûr, qui vient d'une institution telle que l'IGE. L'IGE, c'est l'inspection générale alors d'État et qui est sous le contrôle de la présidence de la République. Alors, un rapport de telle envergure, je pense quand même que c'est à prendre au sérieux.
Oui, c'est effectivement à prendre au sérieux parce que on a comme l'impression qu'il y a une certaine volonté de dégel sur certains volets, notamment le volet financier de la gestion de la chose publique. Et ça, moi, je l'apprécie à sa juste valeur. Au départ, c'était, l'autre qui est au niveau de
Vous voulez parler de la Cour des comptes,
Oui, la Cour des comptes, qu'on apprécie de façon relative sur ses rapports. Même si ces rapports-là ne font jamais l'objet d'une conférence de presse, ils le publient quand même sur leur site. La dame qui va le baigner au bord de la rue d'ici un peu ne sait même pas ce qu'on appelle site pour aller surfer, pour savoir ce qu'il y en a. Ce qui veut dire que c'est vrai que les journaux, pas tous les journaux, ils vont souvent pour revenir publier des choses. Mais il serait bien que quand une institution de ces envergures publie des rapports sur la situation financière et la gestion de certaines institutions de notre pays, il faut que les auteurs de ce rapport, les responsables, fassent une conférence de presse. C'est ça, on a fait une conférence, ne serait-ce qu'un point de presse pour nous situer sur ce qui s'est passé dans une année ou dans deux ans. C'est le cas aussi de l'ARCOP que j'ai apprécié la dernière fois, même si ce qu'ils ont fait à l'université la dernière fois n'a pas plu à certains. Je suis désolé. C'est des prérogatives de l'ARCOP de faire des investigations sur ce qui s'est passé en matière de commandes publiques, des marchés publics. Maintenant, si l'inspection générale d'État, dont le rôle est de faire le contrôle des comptables qui sont dans les institutions publiques pour révéler la gestion des fonds qui s'est produite entre et le comptable et l'ordonnateur principal qui est le directeur de cette institution-là, je crois que les choses bougent un peu. Maintenant, et quand on parle de l'INAM, par exemple, le dossier INAM, nous, particulièrement, nous est revenu il y a deux ans, voire deux ou trois ans, que l'inspection était déjà passée par là. Nous, on a eu écho. On a même eu écho de 500 millions qui seraient disparus comme ça. Et on ne va pas aller loin. Mais il y a eu tellement de malversations à l'INAM. Et moi, j'avais dit à l'époque qu'il faut qu'il y ait un audit sérieux de cette institution-là. Parce qu'on a eu écho. On a même commencé l'enquête. Mais on s'est heurté à certaines résistances. Les sources qui devaient nous donner les informations ont peur. Et donc, on s'en est resté là. Mais ici, heureusement que c'est une autre institution de l'État qui va sur le terrain fouiller pour nous dire aujourd'hui qu'il y a 96 millions ou quelque chose comme ça. C'est plus que ça, selon ce que nous on a appris. C'est plus que ça. Et des gens, pas des moindres, se seraient impliqués dans ça. Heureusement qu'aujourd'hui, certains ne sont plus là-bas. Mais ça ne met pas fin à la dilapidation des fonds et à la mauvaise gestion. Ben non, on parle de ça fait, ça je n'en sais rien. Peut-être on va aller à l'information pour en savoir. Et ça c'est un journal qui l'a dit. Mais je me dis quand même que c'est de bonne guerre quand des institutions qui ont ces prérogatives-là puissent sortir leur nez. Maintenant que ces institutions-là aillent aussi dans d'autres institutions que nous on redoute. On avait déjà cité, mais je ne vais pas le citer ce matin, mais on va y revenir. Il y a plein d'institutions au Togo qu'on redoute. Certains sont arrivés dans ces institutions-là. Ils ont recruté 200 personnes. Institutions d'État. Sans qu'il y ait personne qui ne dise quoi que ce soit. Et c'est les mêmes institutions qui courent derrière les petits entrepreneurs et ou les petits des institutions privées pour des soi-disant quoi. Mais je me dis que ça a commencé, il faudrait qu'il aille dans toutes les institutions. Parce qu'il y a des manifestations partout. Hein. Il n'y en a pas seulement dans les institutions là. Hein. Il y en a peut-être aussi qu'il peut y avoir des erreurs. Que ce ne sont pas forcément des manifestations, mais c'est des documents qui ne sont pas disponibles pour conforter les chiffres ou confronter les chiffres sur les dépenses et de fonctionnement, les dépenses d'investissement ou les sorties inutiles qui ont été faites de façon exagérée. Et donc, moi, je dis aujourd'hui que les trois institutions là, s'il y en a encore d'autres, ils n'ont qu'à faire leur travail. Et que la loi prévoir d'autres prérogatives pour les amener à révéler ce qui se passe réellement. Parce qu'au niveau de l'ARCOP, par exemple, moi, je leur ai posé la question. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas cette prérogative d'aller au-delà de ça, qu'il s'agit du procureur qui devait se saisir. Parce que les rapports sont envoyés au niveau où il fallait pour que justice soit faite. Mais rien de tout ça n'est fait. Que le président de la République, qui se trouve être le premier magistrat, puisse instruire le procureur de se saisir de ce dossier-là, parce qu'il y a des dossiers même de Abusia qui traînent. Même si la personne paie, il faut que ça serve de leçon à d'autres éventuels voleurs. Parce qu'il s'agit des voleurs. Par exemple, on nous a dit qu'ils sont détournés, ils sont en train de payer, il reste des reliquats à payer. Et qui sont ces voleurs-là? Bon, si on ne veut pas les exposer, mais encore faudra-t-il qu'on sache au moins ce qui se passe pour que ça dissuade d'autres personnes. Les gens, moi je n'envie personne, hein. Tu as beau avoir une maison à étage, de 5 niveaux, moi c'est pas mon problème. Mais simple Togolais lambda dit, mais donc mais alors, c'est-à-dire que quel travail il fait? Et il gagne combien? Quelqu'un qui travaille, qui a 300 000 francs au plus, au Togo ici en tant qu'ingénieur ou tout ça là, avec d'autres primes qui s'ajoutent, on va jusqu'à 400 000 ou 500, et qui a une maison à 3 étages, moi je n'en vis pas. Peut-être qu'il a d'autres activités. Mais on se dit que mais s'il fait un prêt sur 10 ans, il achète le terrain. Hello. Et qu'il fait encore un autre prêt de 10 ans ou 15 ans.
pour construire tout ça là, l'argent ne suffirait même pas.
D'accord.
Donc pour vous dire qu'en réalité, il y a tellement la corruption tellement là, au point que l'institution qui est là pour gérer actuellement la corruption, même elle est corrompue.
Ça c'est un autre débat. Alors oui, Magloire, une chose est de dénoncer ou de présenter même d'ailleurs les rapports sur la malversation financière et tout, le détournement et tout, mais une chose est aussi de punir ou de sanctionner les auteurs alors de ces malversations.
Je crois que à la base, si ces différentes institutions existent, inspection générale des finances et tout ça, ça voudra dire que forcément c'est pour une mission donnée. Et chaque institution a une feuille de route et devrait mener ses missions conformément à l'esprit qui sous-tend justement la création de ces institutions. Maintenant, on nous parle d'un rapport qui serait fait. Nous, franchement, comme les confrères l'ont dit, moi non plus, j'ai pas le document avec moi. J'en ai entendu parler. Mais la réalité, c'est que je ne dispose pas d'éléments substantiels comme ça pour pouvoir épiloguer là-dessus. Maintenant, moi, comme je l'avais dit, pour ce qui est de la bisbille entre Saint-Banc et Sounoubank, je me dis, la réalité, c'est quoi? Les gens font leur boulot sur des sujets assez sensibles et à un moment donné, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression comme ils essaient de faire leur travail à un moment donné, on jette ça à la disposition de la presse. Allez vous en faire ce que vous voulez, advienne que pourra. Alors que nous, là, tout le monde sait que depuis un moment, notre corporation, je dirais pas qu'elle est dans le viseur, mais chaque pas que vous posez en tant que journaliste, scruté de près. Et que si par méga, vous vous aventurez à spéculer sur des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, vous risquez de tomber dans des erreurs. Et on sait comment ça peut finir. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Les rapports que les gens ont sortis à la suite des recoupements, des enquêtes et tout ça, c'est bien beau. Mais si on estime qu'à un moment donné, des gens ont failli dans la gestion de sociétés d'État et tout ça, c'est une bonne chose. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a une interconnexion entre presque toutes les institutions de la République. Si quelqu'un a pour mandat de juste faire des audits, et qu'à un moment donné, il dépose son rapport sur la table de quelqu'un d'autre, on sait la suite à réserver à ce dossier. Mais pourquoi on veut mettre la presse devant? Mais si vous déposez votre dossier, que le prochain palier prenne la relève et fasse aussi son job, ainsi de suite. Mais vous vous rappelez, j'aime toujours le dire, le rapport Apulsia sous l'ancien président, on nous avait dit... Voilà, on nous avait dit qu'il y a une bonne dizaine de dossiers traités par Apulsia qui se retrouveraient sur une table donnée quelque part, sans suite. Mais quand ça est comme ça, ça voudra dire qu'on nous trompe en réalité. Parce qu'une chose est de faire des rapports, des audits, mais l'autre chose est de donner la chance à ce rapport-là d'être impactant. Parce que à quoi ça sert de faire des rapports? On dit oui, tel montant serait... Oh, les gens auraient fait des missions sans justificatif et tout. Bonne documentation. Et on dépose quelque part et puis c'est fini. L'année prochaine, on fera encore la même mission. À la fin, là, c'est quoi l'utilité? Pourtant, toutes ces missions, tous ces audits-là, il y a des frais injectés là-dedans. Ce ne sont pas gratuits.
D'accord.
Et donc, chacun connaît sa mission. Moi, ce qui m'embête, c'est que qu'on arrête un peu de mettre la patate chaude dans la main de la presse. Les gens même qui ont pondu le rapport ne sont pas là. Normalement, ils devraient être dans ce studio pour parler de ce rapport. Et s'il y a des questions, on leur pose. Oui, on leur pose. Maintenant, on laisse comme ça un document et puis vous travaillez sur ça. Après, les problèmes vont subvenir. Ils ne vous connaissent même pas.
Merci beaucoup.
Non.
Merci, Magloire. Alors, on va s'intéresser à la politique. On sait que déjà, en début alors de semaine, il y a la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs alors des sénatoriales. Et d'après la Cour constitutionnelle, on a vu quand même que la Cour n'a que entériné même d'ailleurs les résultats provisoires de la CENI.
les journaux, bien sûr, sont revenus sur le sujet. Il y a le journal Le Détective qui est revenu sur le sujet. Le journal qui écrit 5e République, élection sénatoriale, gouvernance à vie, tout pour Fonia Simbe. Et le journal met à la une, bien sûr, la photo du président de la République. Et oui, Michel, déjà quand on prend cette proclamation définitive, alors enfin des résultats bien sûr définitifs de la, comment l'appelle-t-on, de notre des résultats bien sûr, alors et finalement est-ce que vous avez été surpris par ces résultats définitifs qui ont été proclamés?
Surpris pourquoi? La CENI avait donné les résultats provisoires et tout le monde attendait que ces résultats-là soient en tout cas envoyés sur la table des membres de la Cour constitutionnelle pour étude et donner par la suite les résultats définitifs. C'est ce qui a été fait la dernière fois. Et bon, les résultats qui ont été donnés la dernière fois par les sages de la Cour constitutionnelle, ces résultats-là, quand vous les voyez, la conclusion, c'est que la Cour dit que la CENI a fait bien le travail. Ce que la CENI a fait est bon, puisque elle a entériné pratiquement ce que la CENI a fait comme travail. Moi, je pense que à l'heure où nous sommes, on n'a pas le temps pour encore épiloguer sur ces sénateurs. C'est fini. C'est pourquoi nous, ce matin, tu n'as pas lu notre une. Nous, on a dit c'est fini. Bon, on regarde devant, quoi. Que d'ici le 6 mars, le chef de l'État nomme les 20. Oui, c'est ça. C'est les 20,
les 20 justement
restants. Et que rapidement, qu'ils se réunissent et qu'ils, en tout cas, mettent sur pied un bureau avec un président pour que les choses aillent rapidement. Aujourd'hui, oh non, c'est fini. Les sénatoriales, bon, c'est. Vous savez que, moi je l'ai toujours dit, dans l'opinion, c'est que les gens n'attendent pas grand-chose de cette institution. Parce que justement, les gens ne savent pas ce que... Puisque c'est la première fois que le Togo fait cette expérience. Les gens ne savent pas qu'est-ce que les sénateurs... Ils ne maîtrisent pas les prérogatives des sénateurs. Puisqu'on a déjà l'Assemblée, nous sommes habitués à l'Assemblée nationale, aux travaux de l'Assemblée nationale. Donc, c'est d'aller vite. Puisque avec la 5e République, il faut quand même mettre en place cette institution... et avancer, aller vite voir ce qui va être fait demain, c'est tout.
D'accord. Et là, alors, est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est fini et que maintenant on ne doit qu'attendre la mise en place des institutions?
Oui, mais on est en train de mettre en place déjà les institutions. Je pense que d'ici le 6 mars, on nous a dit que les 20 autres sénateurs seront nommés par le chef de l'État. Donc ensuite, il y a même des informations qui fuitent sur la session inaugurale du Sénat. Je ne sais pas si vous avez les informations. Donc petit à petit, les institutions se mettent en place. Donc bon, on attend de voir la suite. C'est ce qu'on peut dire.
D'accord. Ambrose,
vous savez, il y en a qui ont choisi d'aller à une nouvelle république. Ils ont choisi de modifier la constitution sans le consentement du peuple. Et ils ont promis sur les médias le lait, le miel... dans les pompes à la maison. Et donc, si tel est le cas, qu'est-ce que nous, on doit attendre? On attend seulement, comme les confrères le disent, que les institutions se mettent en place pour qu'on ait des rails de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, pour avoir un TGV comme à Dakar, qu'on aille des terrains de football comme à Abidjan. Au moins, nous, on veut seulement trois. Un à Sokodé, un à Dapaon, et encore un plus à Lomé. C'est juste trois. On veut de grands hôpitaux régionaux. Accara, dans la région de l'Accara, Saval, Sokodé, et dans la zone Atakwame-Palimé, et la région maritime à Kéatchélié, comme Tocouin, ou Sylvanus Olympio. On veut plein de choses. Si c'est ça, avec la fameuse République, 5e République, moi je suis aussi dans le Togolais, dans le pays. Moi, je n'ai pas d'objection. Nous opposons un principe. Le principe, c'est la violation de la consultation citoyenne pour tout ce qui gouverne la République. C'est la 5e République qui émane d'une constitution qui a été fabriquée une nuit en catimini par un groupe de députés et qui se retrouve, on se retrouve maintenant dedans. Maintenant, le Togo est le seul cas exceptionnel de ce régime parlementaire au plan mondial. Il n'y a nulle part cette institution-là, nulle part ailleurs. Quand on nous chante celui de l'Inde, de l'Italie, de l'Allemagne, c'est faux. C'est une république bizarre qu'on nous a amenée et dont on va encore souffrir. Mais j'attends le mois de mai, juin, pour voir comment ça va aller. Parce que ceux qui sont actuellement au Sénat, là, tout le monde a vu sur le Sénat, tu le sais. Tu connais cette avis-là?
Je le sais.
Et donc, moi aujourd'hui, tout ce que j'ai cité là, je vous jure, si Fon Asingbe arrive à faire ça, je parle des routes, le médecin cassé, ça fait au moins 3 ans que je suis allé à Kara, mais nos confrères crient comment les gens font accident sur la route là. Au moins une autoroute de Lomé à Saint-Cassé, qu'on a joint au moins des chemins de fer jusqu'à Saint-Cassé. Vous savez, si on a un train à grande vitesse, ne serait-ce que le ce qui est au milieu là, pas ce qu'on voit actuellement à Lomé avec des fumées partout là, non. Au moins un train qui peut prendre les marchandises et les hommes et les femmes, aller à Saint-Cassé. Mon frère, on va applaudir. Si on a des terrains, des hôpitaux, si les gens mangent à leur faim moins deux fois, qui va encore crier quoi? Le reste qu'on m'a demandé, c'est d'aller à la démocratie, parce que nous ne sommes pas encore à la démocratie. Ça, là, c'est un exercice que nous faisons, et au prix de nos vies d'ailleurs.
D'accord, ok, merci. Oya, Magla?
Non, la question est-ce qu'on est surpris par les résultats? Je dis non. La configuration déjà de l'Assemblée nationale, vu la configuration des mairies que nous avons, je crois que Unis partait déjà largement favori. Et donc les résultats ne surprennent personne. Maintenant, moi, ce que les résultats là m'inspirent comme réflexion, c'est que ben, quand vous prenez par exemple les 41 sénateurs élus directement, ben, seulement 6 sont des femmes. Et là, moi, je me pose des questions sur la pertinence de la politique du genre en question. Vous vous rappelez que depuis 2019, le gouvernement a institué, n'est-ce pas, cette politique qui consiste donc à réduire de moitié la quotient des femmes pour, dit-on, encourager l'engagement féminin en politique. Et ça fait quoi? De 2019 à 2025, ça fait presque 6 ans. 6 ans après, si sur 41 sénateurs élus, il n'y a que 6, ça voudra dire qu'en réalité il y a du chemin à faire. Est-ce que cette politique là valait vraiment la peine? Parce que il y a beaucoup qui pensent que on ne devrait pas inciter ou faire du favoritisme en politique. Si la personne, elle est femme et qu'elle se sent engagée en politique, ça va de soi. Même vouloir agir sur des indicateurs, sur des détails prêts pour encourager, ça c'est un fait. C'est ce que je disais, théoriquement, on peut élaborer des tests pour ça. Mais vous ne pouvez pas forcer un cheval à aller boire de l'eau au marigot. Vous pouvez vous l'amener, mais s'il veut refuser de boire, il ne va pas boire. Et donc, pour moi, les résultats de ces sénatoriales-là m'amènent à repenser un peu la pertinence de la politique du genre qu'on a en cours au pays.
D'accord. Il est déjà midi. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et c'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Bonjour, grand frère.
Bonjour, comment vous allez?
Merci Dieu.
D'accord, votre nom c'est...
Dodi de Dalavé.
Ah, Dodi, depuis Dalavé, allez-y.
Je remercie tous les confrères qui sont avec vous. Et mes remerciements vont à l'endroit d'Ambrose Bonjo. Vraiment, ces analyses me vont droit au cœur. Avec le problème de 5e République, là. Qu'est-ce que nous, la jeunesse, on va trouver dedans comme avantage? On a fréquenté, on vient venir faire des tours ici, concours ici, on prend nos miettes pour aller faire les concours. Après ça, on ne donne pas de résultats. Donc, à cette cinquième République-là, tout sera changé. Ah, le bon Dieu nous contrôle tout seul. Celui qui fait bien, Dieu va l'applaudir. Celui qui fait mal, Dieu va le juger. Bonne journée.
Bonne journée à toi aussi, Dodi, depuis Daravé 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur les deux numéros là que vous pouvez nous contacter et nous écrire également sur notre numéro WhatsApp. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, plateau.
Oui, c'est Arma.
C'est Arma, oui.
J'espère que vous allez bien.
Je me porte très bien.
Allez-y.
Il faut dire que l'autonomisation, concernant l'autonomisation de la jeune fille, c'est vrai que c'est l'État qui doit mettre les cadres, le cadre, les normes et autres, pour que, un temps soit peu, les populations puissent suivre. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, surtout concernant nos pays africains, on sent un copie-coller, c'est-à-dire on prend ce qui se passe à l'autre. Et on vient, on tend à le soi-disant l'homme et la femme doivent être égales. Non. Chez nous en Afrique, nous avons des coutumes ancestrales. Nous avons des racines qui sont très profondes par rapport à ceux de l'Occident. Donc, il va falloir que cette autonomisation puisse se baser sur les faits du terrain, c'est-à-dire chercher à voir dans quelles conditions nous pouvons un temps soit peu les adapter à justice et coutume. Et je pense vraiment que là, on aura atteint l'objectif. Merci.
Merci beaucoup Armand pour votre intervention. Bonjour le plateau, c'est Salif Sou depuis Sokodé. Un grand merci à votre radio partenaire Centrale FM, grâce à qui je vous suis. Si on détourne les fonds, c'est parce que ceux qui nous dirigent sont à la tête alors du pays par des élections frauduleuses. Le peuple a faim, ce n'est pas le problème. J'ai mal pour mon pays. Un grand merci à toi Ambroise. Merci, c'est Salif Sou qui nous écrit depuis Sokodé. Allô?
Bonjour, mon grand frère Pascal.
Bonjour, mon cher ami. Comment vous allez?
Je vais bien. Et chez vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est?
Benoît Dagon.
Ah, Benoît. Allez-y.
Moi, je voulais seulement dire la lutte. L'autre fois, au Bénin, le Bénin est septième de la lutte contre la corruption dans le monde. D'autre part aussi, je vois le Bénin faire disposer des hectares pour que les Béninois, que leurs grands-pères ont été déportés, achetés au Bénin, viennent investir au Bénin pour construire leur pays. Au Togo ici, rien. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup Benoît depuis Agoué et merci pour votre intervention. Je vous salue, bonjour Canal FM, je salue tous les confrères sur le plateau. C'est Kokou qui nous écoute depuis Badou. Et merci 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Bonsoir, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ouais, togolaisement. Hein.
D'accord, allez-y.
Bon, votre l'autre numéro là, ça ne marche pas.
Ah oui, je pense qu'il y a Michel qui nous annonce justement cela.
Oui, oui, depuis hier, je n'ai pas voulu dire ça.
D'accord, ok, on va justement travailler sur cela et trouver une solution.
D'accord, merci.
Merci beaucoup.
Bon, moi, je vais vous parler, je vais commencer par vous parler à partir de la banque. C'est quelqu'un qui s'est levé un petit matin, que tout ce qui est pour les chevaux, il va vendre tout. Quand j'étais à la BTD, la carte automatique que moi j'utilisais, c'est à 7500. Il a amené Laura Bank. Il nous fait ça à 48 000. Ça fait un exemple parmi tant d'autres. Un jour, les gaz butane ont flambé. Je prends pour témoin Elon qui est là-bas. Il dit que ce n'est pas au Togo seul. Mais au finish, on a vu que c'est au Togo seul. Puisque le Burkina vend ça à 2000 et nous on vend ça à 5000. Bon, dans cette condition, c'est quoi qui n'est pas contorsion dans ce que vous venez de dire ici? Qu'est-ce qui n'est pas contorsion? Parce que tu viens de Dakar pour venir débattre, qui n'est pas contorsion? Moi, je ne vous comprends pas. Aidez-nous. Merci à vous.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Bonjour, Monsieur Pascal. Merci à tous pour l'émission. Je n'arrive pas à comprendre que nous ayons beaucoup de hauts perchés femmes à nos institutions. Et c'est maintenant que nous avons plus alors de prostitution de plus de 50%, si je n'exagère pas, partout dans la ville. Et c'est vraiment inquiétant. Et je le dis en connaissance de cause, je suis conducteur de taxi moto. En tout cas, par moment, et c'est Rodrigue qui nous écrit 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est
Aklesson depuis Mission Tove.
Aklesson, vous nous écoutez depuis Mission Tove. Allez-y.
Oui, c'est par rapport aux élections sénatoriales.
Oui.
Oui, demandez à un Togolais si est-ce que il a appris qu'il y a eu élection au Togo. Il va vous répondre quelle élection? Non. Moi-même là, c'est votre radio que j'aime et que c'est par vous que j'ai appris qu'il y a eu élection. Est-ce que c'est normal de nous traiter comme ça? Merci beaucoup. Bonne émission.
Merci beaucoup, Aklesson, depuis Mission Tove, 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Bonjour, madame, ici.
Oui, bonjour. Je fais un coucou à Fass, à Basile. Basile me fait beaucoup rire. Il y a mon frère qui vient de passer ici, qui est mal. Parce qu'on nous gouverne comme du bétail depuis la nuit des temps. Et puis on dirait que vous, vous êtes content là-bas. Tout ce que le régime pense, nous lance, l'histoire de l'autonomisation, du genre, des filles, tout ça, est-ce qu'on en a besoin? On n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin d'affirmer, de faire la démocratie, de s'élever quoi. Et on n'en a pas besoin. Vous à moi là. Et le régime a le droit de faire des mandats non limites. Est-ce qu'ils ont le droit? Hein? Le mandat fini, on entre en transe et puis on charcute tout, on est encore là à opprimer, à tyranniser. Et puis la dernière fois, et tout se fait aussi en catimini. On n'est pas du détail. Nous sommes des esclaves là. Mais vraiment, et puis vous êtes content là-bas. Tout ce qu'on envoie là, vous êtes content. Moi j'aimerais que on arrête de discuter de cette histoire de Sénat, de machin.
D'accord.
De quoi, mais qu'on arrête.
D'accord, merci beaucoup, madame, ici pour votre intervention. Bonjour, mes chers journalistes. Et j'ai remarqué que la route IPG à Dido Gomé, Sagbado, serait aménagée. Et est-ce qu'on ne peut pas nous faire aussi des échangeurs pour la banque? La BOA nous fatigue avec son guichet automatique. C'est Marcel qui nous écoute depuis Atiego. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, maître. Je vous remercie tous. Mais ce que moi, je voudrais dire... Pardon. Moi, je suis enseignant. vous, qu'est-ce qu'il y a, pardon? Moi, c'est la compétence. Et vraiment, le concours, on l'a fait dans une classe. On passe un concours, on demande niveau bas ou bien licence maîtrise. C'est les filles ou bien les femmes et les garçons. Si on veut 20 places, est-ce qu'il y a un concours pour les femmes pour dire que au lieu de 20, même si la femme est dernière, il faut la prendre? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Promotion de la femme, d'accord. Nous allons à l'école. Chacun n'a qu'à faire selon ses mérites. Tous les jours, madame, je la remercie. Le genre, il y a 35 ou 34. Mais si la femme, quelqu'un a dit parmi vous, si le cheval n'a pas besoin de boire, vous l'amenez, il ne va pas boire. Le mérite, moi, il ne peut pas céder cette affaire de femme, quoi. Ça veut dire que les femmes sont inférieures. Des fois, on ne veut pas la politique des hommes, c'est des femmes. Ça veut dire qu'elles sont inférieures. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. Juste vous encourager et vous remercier pour le travail que vous faites. C'est Edmond depuis nos plateaux. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est Monsieur Mahouto.
Monsieur Mahouto.
Oui, allez-y.
Bon, pour moi, donner la terre aux femmes là, moi je vois un piège caché dedans. Hein. Il y a un piège dedans. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que si vous pouvez, et si monsieur, le grand-père de monsieur Fondio a fait deux garçons, et il leur a partagé la terre, et maintenant le père de monsieur Terco a fait deux filles seulement. Maintenant la fille est partie épouser l'autre personne. Les gens changeront du nom, alors que la terre appartenait à la grande famille. Vous ne voyez pas ce que il y a un piège carré dedans. Donner la terre à la femme, moi je vois que ce n'est pas bon. C'est ça qui est conditionné. Si la femme est vivante, la terre l'appartient. Si elle n'est plus, ça ne l'appartient plus. Vous ne voyez pas ça? Merci, bonne émission.
Merci, bonne journée à toi et bonjour Canal FM. Et tant que les institutions qui doivent punir la corruption sont elles-mêmes corrompues, la corruption demeurera toujours. C'est André qui nous écoute depuis Dakar. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick, comment vous allez?
Bien et vous?
Ça va pas la grâce, c'est toujours commandant.
Oui, ben, ça ne change pas.
D'accord, allez-y.
Je profite pour dire bonjour à sa soeur, le général, et puis à mon ami, l'autre journaliste, le commandant,
Abbas Issaka.
Voilà.
Voilà.
Bon, je veux revenir sur trois points.
Oui.
Le premier, je crois que la dernière fois, vous avez reçu le syndicat ou bien les responsables de Sounou Bank qui sont venus parler.
Non, mais c'est Saint-Banque plutôt.
C'est Saint-Banque.
Oui, oui.
Voilà. Et maintenant, ce qui se passe avec Sounou, dont vous avez évoqué là, bon, vous ne voyez pas que il est temps d'envoyer aussi quand même un courrier d'invitation aux dirigeants ou bien aux responsables de cette banque pour qu'on puisse quand même les écouter aussi.
Effectivement, nous allons nous y atteler. On est en train quand même de faire nos efforts pour les recevoir aussi.
Voilà. Parce qu'on ne peut pas, comme... Michel, là, c'est bien dit, si on ne comprend pas le contour, on ne comprend pas aussi leur version, on ne peut pas se prononcer là-dessus, quoi. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, vous savez, vous avez l'habitude de parler de la corruption, mais on a l'apparence que ça ne change pas, hein, c'est trop quoi. C'est chaque fois, au lieu que ça diminue, ça progresse. Moi, je m'en vais même dire que je n'ai rien contre la chevette actuelle de Lomé, mais si on le nommait même au port, il peut voler aussi. C'est ce que moi je vois quoi. Si tu as cette possibilité, tu peux voler quoi. On va rien te faire. Et le pays demeure comme ça. Je me rappelle d'un président de la sous-région qui disait que les salaires sont restés intacts, les primes sont restées intactes, mais les gens parlent que l'argent ne circule plus. Qu'est-ce que cet argent-là qui circulait et qui ne circule plus maintenant? Et qui peut comprendre doit comprendre. Et pour finir, le troisième point. Monsieur Ambroise a dit quelque chose de très capital, de très important. Là, je m'adresse directement aux économistes de ce pays. Vous savez, à l'heure actuelle, si le Togo arrivait à faire une route de chemin de fer, de Lomé, ne serait-ce que pour desservir le Sahel, vous allez voir comment ça va impacter sur l'économie togolaise. Je dis bien, un chemin de fer qui quitte Lomé ici, qui descend par exemple au Burkina, ce que ça va rapporter pour ce pays, vous n'allez même pas croire. Déjà, la route est déjà là. Le chemin de fer ne coûte pas plus cher que la route normale. Hein. Le chemin de fer, la construction, ne coûte pas plus cher que de tracer une autoroute, par exemple. Donc, j'en appelle à ceux qui sont à l'écoute là. Pour faire au moins un chemin de fer Lomé-Ouaga, ça peut être possible.
D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Et Patrick, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis rapidement cette réaction d'un auditeur qui nous écoute depuis le Bénin. Et bonjour, cher confrère. Merci pour l'exercice quotidien. Vous savez, c'est dommage et très triste de voir certains corps habillés de fait usage du zèle lorsque les citoyens les abordent, contrairement à leurs responsables qui sont très humbles dans bon nombre à l'heure de cas. Il faut inculquer le respect à certains de ces éléments. Et pour le problème de Sunu Bank, c'est une affaire rocambolesque et ce n'est qu'au Togo qu'on note cette dérive de honte. Il faut que les autorités prennent les taureaux par les cornes, que le président de la République s'approche du peuple et qu'il sort de sa tanière pour comprendre la réalité que vive la population. C'est Aristidos Adelakoum depuis le Bénin. Et il nous écoute bien sûr de là. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce jeudi 27 février 2025. Michel, vous avez écouté les uns et les autres, votre réaction?
Oh, comme d'habitude, les auditeurs ont donné leur point de vue par rapport à l'actualité et je trouve que c'est bien. Nous avons l'habitude de les écouter. Aujourd'hui encore, ils ont quand même eu à se prononcer par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Mais j'ai regretté qu'il y a un point sur la une de Ouara que tu n'as pas lu par rapport à la construction des ponts.
Et effectivement, si tu peux en parler, ce serait également très intéressant.
Non, comme le temps nous talonne, c'est par rapport aux 21 ponts que le chef de l'État a lancé en mars 2024. Après 8 mois, on se rend compte que les travaux sont déjà à 45%. Et donc, certains ponts sont déjà opérationnels. Comme vous prenez le pont d'Amapapé, le pont de Koumangou dans les savanes. Et il faut préciser que sur les 21 ponts, il y a 17 qui seront construits dans 17 préfectures. Et cette préfecture cette pont dans la seule préfecture de l'Est Mono. Globalement, les choses évoluent bien. C'est pourquoi nous avons voulu revenir sur cet aspect cette semaine.
D'accord.
C'est vrai que tu n'as pas lu la une de Ouara aujourd'hui, mais bon.
Mais ce qui est sur Ouara, les vainqueurs dans les kiosques ce matin, et même le directeur est avec nous, c'est déjà quand même très bon.
Oui, c'est ce que je voulais juste apporter.
Merci. C'est très important.
Par rapport à la fluidité et à la sécurité qu'on recherche, beaucoup de choses sont en train d'être faites.
D'accord.
Dans le domaine des ouvrages.
Et il faut informer la population sur cela. Merci beaucoup, Michel. Elan?
Bon, on n'a pas trop de commentaires. Moi, j'ai pas trop de commentaires par rapport aux avis des auditeurs. À part Monsieur Basile, c'est ça? C'est ça le nom? Il a parlé du gaz, tout ça.
Oui, bon. Oui, effectivement.
Bon, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on a parlé du gaz pendant toute l'émission.
Non, pas aujourd'hui. C'est vrai que lui, il s'intéresse à d'autres sujets.
Ben, est-ce que le principe de l'émission, c'est non, que les auditeurs se prononcent sur l'émission du jour, une émission?
Justement.
Parce que si c'est comme ça, on peut venir avec nos sujets, commencer à parler.
Non, mais je ne pense pas. Si déjà il y a un modérateur pour l'émission, ça veut dire qu'il y a un sujet.
Donc, à l'avenir, faites l'effort d'interpeller les auditeurs, de parler des sujets du jour. Sinon, nous-mêmes, nous pouvons venir avec nos sujets et commencer à débattre.
Et l'homme, c'est toujours ce que je fais.
Donc, si vous
avez toujours fait le constat.
Ok.
Donc,
à l'avenir ou à partir de demain, faites l'effort de dire aux auditeurs les sujets dont on a débattu là. Il faut en parler. Parce que nous aussi, on a des sujets dont on veut débattre, mais on n'en parle pas. Parce que ce n'est pas nous qui conduisons l'émission.
Je l'ai toujours fait. Oui, merci beaucoup.
Juste revenir sur le cas des hommes habillés dont je parlais. Le monsieur qui a appelé
a si bien dit que les patrons sont plus courtois.
Et c'est il a écrit depuis le Bénin.
Ah, le Bénin, oui, effectivement. Déjà, quand Yark était au ministère de la Sécurité, même jusqu'à présent, Yark, c'est un monsieur. Bon, c'est vrai que mais à 2h du matin, même tu l'appelles, il prend. Hein. C'est-à-dire qu'on a retrouvé en lui qui n'a pas de problème. Mais le nouveau ministre, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai compris que c'est quelqu'un qui, il veut être un peu plus relax et il communique aussi avec les médias surtout.
D'accord, ok, merci beaucoup.
Il connaît ça partout, oui. Donc je me dis que.
Merci.
Maintenant, il faut l'inculquer à leur.
D'accord, merci. Merci oui, Magloa, 30 secondes.
Oui, non, c'est pour dire que je suis d'accord avec un auditeur qui a dit que parfois, quand vous amorcez un projet qui soit coûteux et qui dure dans le temps, à un moment donné, peut-être il faut changer un peu d'approche. Pourquoi pas? Le jeune Ghanéen de 10 ans, de 5 ans, de 15 ans connaît le train. Le jeune Sénégalais, on était à Dakar l'année dernière avec Michel. On a vu comment le train, le TGV est là. Mais quand vous parlez du train, à un jeune de 10 ans, 15 ans au Togo, c'est la ferraille qui passe à Tikoumé là, avec beaucoup de fumée.
D'accord.
C'est pour dire qu'il est temps qu'on essaie les nouvelles choses qui sont là.
Ok.
Le TGV, pourquoi pas.
Merci beaucoup, Mabla Kenditeko. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci, Michel Yaoutsadza, directeur de publication du journal Wa les vainqueurs. Merci d'être passé. Et Lomatisoubi, merci d'être passé aussi dans cette émission. Directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Merci à Ambroise Kwanzo, directeur de publication du journal Des Guadiens. Merci à vous tous pour votre contribution à ce débat. Et merci pour votre constance, surtout alors dans l'animation alors de ces débats. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui avez apporté aussi votre contribution pour ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.